Alright, 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci d'être nos yeux, nos oreilles. Ça vous tente de communiquer avec nous autres dans l'open mic, parce que ça sert pas mal à ça, l'open mic, c'est de jaser ensemble toute la gang. Ben, c'est le même numéro par texto, 418-971-1021. On a le plaisir de l'accueillir une couple de fois par saison, ça nous fait toujours plaisir de l'avoir et toujours de bonne humeur. C'est Nancy Doyon, coach familial, qu'on appelle communément, quand on la croise à la pharmacie ou encore à l'épicerie, Madame SOS, SOS Nancy. Salut SOS, comment ça va?
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Ça va bien, merci d'être là. Je sais que ta semaine est très, très, très occupée. Là.
Yes, rock and roll. Dit,
bon, ben là, vous avez assez de sujets, ça va à peine que j'aille vous voir. Donc, on est très reconnaissant de ta visite. Moi, il y a un article que j'ai consulté hier dans le Journal de Montréal, si je ne me trompe pas, où on parlait de violence verbale extrême envers des enfants. Puis, quiconque entend parler de ça, tu dis « OK, ouais, mais tu sais, c'est relatif. Là. C'est quoi de la violence verbale extrême envers des enfants? Tout le monde qui a entendu l'extrait hier,
c'est fou.
J'ai regardé leur visage après avoir entendu l'extrait, puis ils sont tous outrés de ce qu'ils ont entendu. On va le faire entendre aux auditeurs SOS Nancy, puis je veux que tu me donnes ton avis là-dessus. Comment une éducatrice spécialisée en garderie peut en venir à faire ça avec des enfants? Moi, ça me flabbergasse carrément.
Yes.
Je te fais entendre ça à l'instant.
Ton petit cerveau, faut qu'il gère 72 000 affaires en même temps quand on te parle. T'es où, là? À la garderie! Dis-le à ton cerveau, t'as pas d'arrêt au courant. T'es mort? T'es le gars, lui. Ce boy, là, il gère 72 000 affaires dans son petit cerveau. Là, le matin, il est à spin. T'as pas besoin de spinner, je t'ai demandé de t'asseoir.
Ça dure une minute et demie.
À 55 ans, j'ai pas besoin d'un autre son en plus, là. Ouais? Fait que, pensez mieux d'être opéré et de collaborer à ma tête parce que c'est ridicule. Hein, il demande de s'asseoir. Il gère la table, il gère le mur, il gère les arbres. En train de combien de temps t'asseoir? 3 heures? Allume, là. Moi, si ça chauffe dans ton cerveau, ça chauffe pas dans le mien, là. Hein, tu demandes de s'asseoir. Hey, la boule. Il est devant toi, là. On appelle ça un cerveau lent. Pourtant, il va à 100 000 à l'heure dans ta tête. Après moi, t'es un mélange des deux, toi. En tout cas, toi et ta chum dans la même classe, là, le professeur s'arrache la tête. Ça sait pas, ça fait rien, ça n'enregistre rien, ça n'écoute rien. T'es exactement pareil comme lui. C'est sûr que tu vas avoir une petite colline toi, en temps maternel. C'est évident. Là, tu vas-tu me regarder longtemps de même parce que tu sais pas quoi faire de tes 10 doigts? Moi, j'aimerais ça t'écarter comme toi, non?
SOS Nancy, on est tout outrés d'avoir entendu ça. Ça arrive-tu plus souvent qu'on pense dans les garderies du Québec?
En fait, je pense que la très grande majorité des éducatrices sont excellentes. Mais je pense que ça arrive plus souvent qu'on pense dans les garderies et dans les maisons aussi. Tu sais, j'ai pas envie qu'on cible les éducatrices comme telles. J'ai plus envie qu'on parle de violence, d'adultes. Si on pense, puis j'ai envie de rectifier quelque chose qui est important. Tu sais, tantôt, t'as dit, de la part d'une éducatrice spécialisée en garderie, c'est pas une éducatrice spécialisée. Être éducateur spécialisé, c'est avoir un diplôme d'études collégiales de trois ans. Je suis éducatrice spécialisée. Puis un éducateur spécialisé, ben, est équipé pour travailler avec des enfants en troubles de comportement.
Okay. Une éducatrice en garderie, c'est quoi ça là comme formation?
Ça dépend. Tu peux avoir un diplôme de technique d'éducation à l'enfance, okay, qui est aussi un 3 ans. Il peut y avoir aussi un AEC. Sauf que les éducatrices qui ont un milieu familial peuvent avoir une formation de 45 heures. Donc, n'importe qui peut suivre la formation de 45 heures. Puis après ça, bon, ben, ils ont des formations obligatoires de 6 heures par année qu'ils doivent suivre. Donc, ils ont des formations complémentaires. Puis, tu as un bureau coordonnateur avec du personnel spécialisé qui viennent voir, qui viennent faire un tour et qui viennent donner un coup de main aux éducatrices en encadrement. Sauf que, puis, bon, ben, c'est pour être accrédité, là. Mais Ginette peut décider qu'elle s'ouvre une garderie privée dans son sous-sol, puis pas nécessairement avoir de formation de base. Et le plus grand, Ce qu'il y a de plus dangereux là-dedans, c'est que il n'y a pas de surveillance. Je veux dire, tu prends un adulte qui peut vivre toutes sortes de perturbations émotionnelles, qui peut... tu sais, cette dame-là se défendait en disant que c'était de la faute que son ex n'était pas fin avec elle.
Qu'elle ne savait pas qu'elle était enregistrée.
Oui, puis qu'elle savait pas qu'elle était enregistrée.
Elle dit, je cite, « un fou furieux et un trou de cul ».
Oui, c'est ça.
Elle dit qu'au lieu de déverser sa colère sur lui parce qu'elle était tannée de le voir, elle l'a déversée sur les enfants.
C'est ça. Mais tu sais, cette dame-là peut avoir des problèmes de santé mentale. Personne ne va le savoir. Je trouve que c'est ça. C'est pas tant le manque de formation, parce que les éducatrices en milieu familial ont des formations continues. C'est une partie de ma job, moi, donner de la formation continue. Puis je te dirais que la plus grande partie des gens que je rencontre comme éducatrice sont des femmes puis des hommes qui ont bien, bien de l'allure puis qui veulent vraiment le bien des enfants.
Mais c'est
qui font
une
de leur
vocation,
mieux.
Nancy. Là.
Ah, oui. Bien, certain.
Oui, oui.
T'sais, oui, certain. T'es fait pour ça ou pas, si tu sens que t'es impatient avec les enfants, change de job. T'en as 5-6 à ta charge.
Oui, 5-6, ben, jusqu'à 6, effectivement. Puis ça sera pas tout le temps des enfants qui sont tranquilles et calmes. Puis si on l'entend bien, là, cette dame-là, elle se défoule sur l'enfant. Et ce qu'on entend aussi derrière, c'est que c'est probablement un langage usuel qu'elle a. Quand elle parle publiquement de son ex, puis qu'elle en parle aussi avec la même violence, on voit que ça fait partie de sa personnalité de parler comme ça. Fait que, tu sais, elle a aucune conscience qu'elle est violente.
Qu'est-ce que ça peut avoir qu'est-ce que ça peut avoir fait sur le comportement de ces enfants-là à court et à long terme?
Bien, c'est sûr que, tu sais, ce type de violence-là au quotidien...
Développement comportemental, c'est le mot que je cherchais. Oui, voilà.
Bien, en fait, moi, je dirais même au niveau du développement, surtout le développement affectif, tu sais, ça peut causer beaucoup de problèmes au niveau de l'anxiété.
Ouais.
Chez certains enfants, ça va faire augmenter la colère et leur propre agressivité. Donc, de plus en plus de comportements d'opposition puis d'agressivité entre les enfants.
C'est le dénigrement aussi, tu sais, de savoir que j'aurais pu confier, moi, mes deux bébés à une dame qui ne cesse d'être dénigrée constamment.
Bien, c'est ça.
D'avoir un enfant qui n'est pas en confiance jamais.
Et puis, tu sais, au-delà au-delà des mots qu'elle prononce, le ton avec lequel elle s'adresse aux enfants, puis c'est ça aussi que je veux, où je veux sensibiliser les adultes, on entend l'espèce d'agressivité tout le temps dans le ton qu'elle utilise. Elle est brusque, elle est bourrue. Même si elle n'avait pas prononcé des paroles aussi blessantes, ce climat-là, vivre dans un climat pour un enfant où il y a tout le temps une espèce d'agressivité en arrière-plan, ben ça amène une grosse insécurité affective, des blessures qui peuvent suivre l'enfant toute sa vie. Puis l'affaire, c'est qu'en plus, ils n'ont pas la capacité intellectuelle de se dire « Bien, voyons donc, ça n'a pas d'allure comment tu me parles, elle. Je vais en parler à mes parents. Voyons donc, ça n'a pas d'allure comment elle me parle. Fait que je vais me protéger émotivement. » Eux autres, les enfants, ils absorbent tout ça. Puis, tu sais, j'invite, moi, les gens à googler. J'ai une formation qui s'appelle « Un mot de trop. Éduquer sans blesser, humilier ou faire peur. » Où, justement, j'ai fait une espèce d'échelle pour expliquer à partir de quand est-ce que tu es ferme, à partir de quand est-ce que tu es agressif, à partir de quand est-ce que tu es violent. Tu sais, on parle beaucoup des violences éducatives ordinaires dernièrement, puis des fois, je trouve que les gens sont mêlés, ils ont comme l'impression que s'ils ne sont pas agressifs, ils laissent tout passer, et ils confondent la fermeté avec justement cette espèce de forme de violence-là. Tu sais, la dame va probablement se défendre en disant « Ben voyons, je crie pas dessus, je les ai pas insultés, j'ai juste dit des petites affaires, là, tu sais, voyons donc, de toute façon, ils comprenaient pas tant. » Ben oui, c'est très, très violent. Et dans beaucoup de familles, il y a cette espèce de climat-là où, quand les parents sont pas contents, ils bourrassent, ramassent des enfants par le bras, donnent une claque sur la table, claquent une porte, des gros « Hey, là, tu vas fermer ta gueule, puis je commence à t'écœurer. »
Une grosse impatience.
Ça, le sarcasme. Moi, j'avais un petit garçon qui m'avait dit « Moi, j'aime pas ça quand mon père me dit bravo. » Je dis, comment ça, t'aimes pas ça quand ton père te dit bravo? Et je sais jamais s'il pense ou bien si c'est une insulte.
C'est pour l'insulter.
Parce que son père, régulièrement, quand il faisait une gaffe, il dit, ben bravo, mon grand. Hein, là, je suis fier de toi. Ça, c'est intelligent. Hein? Bravo, mon champion. en applaudissant.
Fait que ce mot-là, il était plus comme bon ou méchant.
Non, c'est ça. Fait que le jeune ne savait plus trop quand on lui disait bravo, si on se foutait de sa gueule ou bien s'il avait fait quelque chose de bien ou pas. Fait qu'au niveau de son estime de soi, c'était complètement, je veux dire, et lui, il savait plus si ses parents l'aimaient ou pas, s'il était une bonne personne ou pas, puis il savait plus trop comment se protéger, fait qu'il se braquait.
Ouais. Tu sais, là, il y a des gens qui sont dans leur voiture qui disent ouais, « là, mais moi, j'ai déjà pogné les nerfs avec mes enfants. » Tout le monde a déjà pogné les nerfs après ses enfants. Il n'y a personne de parfait.
Exact.
Personne, personne, personne. Puis moi, il y a de ça quelques années, j'en ai parlé en ondes, puis je t'en ai parlé à toi, Nancy, parce que c'est toi qui m'avais dit de faire ça. Mm-hmm. Tu sais, des fois, quand t'es excédé, tu sais plus quoi faire, là. Plutôt que des étranglés, là, ben tu sors sur le perron, tu regardes dans le vide pendant deux minutes, puis à un moment donné, ça va passer. Tu recommences à respirer, tu reprends sur toi, puis après ça, tu rentres dans la maison avec des solutions. Mais t'abandonnes pas tes enfants, là. Tu fais juste sortir sur le perron avant de dire ou de faire ce que tu veux ne pas faire.
Ou va dans la salle de bain, ferme la porte, barre la porte, mais tu sais...
Ah, moi, même dans la salle de bain, me suivre.
Une des choses que je dis souvent aux adultes, c'est apprenez à différer vos réactions. Tu sais, apprenez à ne pas réagir à chaud quand vous avez le thermomètre à baboune dans le piton. Mais là, ce qu'on entend là, c'est pas une dame qui... perd patience devant un comportement inadéquat d'un enfant. C'est une dame qui, au quotidien, de façon, tu sais, on voit, elle n'est pas désorganisée, là.
Elle est juste toxique.
Mm. Ouais.
Est-ce que ces gens-là, puis là, on est dans la psychologie sincère, mais sont-ils capables d'être caméléons au point de tromper les parents? Parce que, tu sais, je veux dire, à mes yeux, à moi, j'entends ça, j'écoute la dame parler, puis je me dis, il me semble qu'en tant que parent, tu l'entends parler comme ça, même quand elle insulte pas les enfants, tu te dis, OK, elle manque peut-être un peu de jugement quand elle s'adresse aux enfants, là. Tu sais, elle parle comme une femme de 50 ans, mais... C'est comme si elle parlait à des bonhommes de 50 ans alors qu'elle parle à des bébés de 3, 4, 5 ans.
Je suis surprise, pour vrai, parce que ma mère a eu une garderie en milieu familial pendant 25 ans, puis souvent, on avait des retours, tu sais, les enfants répètent.
Oui.
Fait que souvent, ma mère, là, même des fois, puis tu parlais de sarcasme là, à travers des blagues, les enfants ne comprenaient pas, racontaient ça aux parents, puis le parent était comme « Hey, tu sais, mon enfant m'a raconté telle affaire, tu sais, peux-tu m'expliquer, je comprends pas ce qu'il essayait de me dire? » Fait que les enfants répètent beaucoup. Je suis surprise que dans ce cas-là, surtout que de ce que j'ai compris, c'était des enfants qui étaient aux alentours de 4-5 ans, là, uh-huh. Comment ça s'est jamais rendu aux parents?
Ils ont dû ramener des affaires, mais tu sais, oui, les gens sont capables d'être caméléons. À mon avis, je pense que comme parent, je serais allée porter mon enfant là, j'aurais quand même vu que la madame a manqué de fini. Là, tu sais, y a comme une évidence, mais en même temps, tu sais, ils sont toujours capables de mettre un contexte différent. Oui,
d'expliquer.
Oui, mais c'est, ben oui, c'est ça. Mais tu sais, oui, les parents ont dû être un peu sensibilisés, avoir entendu une couple d'affaires. Mais tu sais, après ça aussi, tu sais, les enfants, pour eux, ce qu'ils vivent au quotidien, c'est leur normalité.
Ouais.
Fait que, tu sais, comme ils connaissent rien d'autre, ben dans leur tête, à eux, ça peut facilement être, ben écoute, c'est comme ça, je suis à la garderie, ben, tu sais, elle me parle comme ça. Puis à un moment donné, ben, ils n'écoutent plus trop, justement, tu sais, elle se plaignait de l'enfant qu'il n'écoute pas. Ben, c'est normal. Pour petit loup, ben, il s'est mis une espèce de filtre pour éviter d'entendre ça, tu sais. Fait que oui. Puis elle disait, ben, tu vas-tu me regarder de même toute la journée? Ben, le petit devait le regarder parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Puis essayait de décoder à travers ce qu'elle disait, c'était quoi la consigne.
Les cinq premières années chez nos enfants, est-ce que c'est important dans leur développement?
Hey, c'est fou. Bon, il y avait un livre qui existait qui disait « Tout se joue avant 6 ans ». C'est pas vrai, mais il y a quand même énormément d'enjeux qui sont là. Toute la sécurité affective de l'enfant, les bases du lien d'attachement sécurisant, c'est beaucoup entre 0 et 5 ans. Tu sais, le cerveau de l'enfant aussi se construit à travers les expériences vécues. Donc, plus l'enfant vit des expériences enrichissantes, tripantes, des belles découvertes, plus il y a des beaux liens avec les gens autour de lui, plus il prend confiance en lui, plus il prend confiance en son environnement, plus il développe aussi son espèce de curiosité. Si chaque fois que l'enfant essaie de faire quelque chose, il est réprimandé, stoppé, puis qu'il a peur ou tu sais, qu'il est dans un climat de tension, ben ça se pourrait aussi qu'il se mette à explorer de moins en moins, s'intéresser à de moins en moins de choses, et là, ben, qui développe des réflexes, effectivement, de figer. Tu sais, il devient comme un peu sidéré. J'ose plus rien faire parce que, puis là, c'est inconscient, mais c'est si je ne fais rien, si je me déguise en plante verte, j'ai peut-être moins de chances de me faire réprimander puis de recevoir de l'agressivité.
C'est triste, là. À l'inverse, on dirait que j'ai envie qu'on parle des enfants qui sont pas du monde, parce que, puis ça explique pas en passant les pertes de patience non. et tout, là, je ne donne aucun positif à cette dame-là de Longueuil, mais il y a un sondage qui a été mené auprès de 7000 enseignants, c'est sorti dans les médias où on dit qu'il y a environ 56 % des enseignants qui rapportent subir au moins une incivilité par jour de la part des élèves. Puis on dit que c'est même pire au primaire, le chiffre est à 63 %. Fait qu'on parle de comportement grossier, agressif, autant physique que verbal, là. Puis on dirait que même si pour moi c'est inexcusable une perte de patience de la part d'un éducateur, une éducatrice ou d'un prof, on est humain, puis j'arrive à comprendre que si t'en as 15-20 dans ta classe qui sont pas du monde, qui sont agressifs, qui te pitchent des insultes à un si bas âge, ça doit être dur de garder le contrôle. En tout cas, moi, c'est pas ma vocation, clairement.
Non, c'est clair que c'est pas simple. Puis là, en même temps, je lisais l'article, puis je me disais, tu sais, incivilité, il incluait là-dedans les manquements aux règles.
Ah, bien, le seul.
Tu sais, je veux dire, il y a des niveaux de tolérance un peu différents d'un enseignant à l'autre. Pour certains, un enfant qui parle sans lever sa main, c'est une incivilité. Pour certains, l'enfant qui roule des yeux quand on y parle, c'est une incivilité. Puis d'autres... Fait que tu sais, je trouvais que ça englobait quand même beaucoup de choses.
Entre traiter ton prof de ce type de trou de cul puis de pas lui dire s'il vous plaît, c'est deux incivilités, mais il semble qu'il y en a une qui est un peu plus...
Ben, c'est ça.
Un peu plus...
Fait que tu trouvais ça large.
Criminel mais... que l'autre.
En même temps, est-ce que c'est vrai qu'il y a une augmentation des comportements agressifs puis d'opposition dans les écoles? Oui. Okay. Est-ce que effectivement c'est une vocation puis que c'est pas simple de gérer ça au quotidien? Okay. Oui.
Mais c'est West Nancy, c'est où est-ce qu'on l'échappe? C'est-tu à l'école primaire, les profs qui ont pas fait leur job? C'est-tu les parents qui ont pas fait leur job? Tu sais, moi, mes gars, ils commencent à être assez vieux, là. Il y en a un qui a 11 ans. Puis des fois, quand ils me demandent quelque chose, je suis obligé d'attendre 3-4 secondes pour qu'ils se lèvent les yeux vers moi. Ouais. Puis là, ils me regardent encore 3-4 secondes, puis ils disent « Ah, s'il vous plaît. » Tu sais, c'est... Mais il y a 11 ans, là. Tu sais, puis je lâche pas. C'est où est-ce qu'on l'a échappé pour que ça soit si pire que ça en 2024? Ou c'est-tu les profs... Ah, je m'excuse les professeurs qui nous écoutent, mais c'est-tu les profs qui sont rendus trop fragiles?
Non. Écoute, ça fait assez longtemps que je me promène dans les milieux scolaires pour voir qu'il y a effectivement une augmentation des comportements indésirables, agressifs, manque de respect dans les écoles. Puis, sincèrement, dans les écoles aussi, avec l'inclusion des enfants à tout prix, puis l'absence de soutien adéquat pour les profs au niveau de la gestion du comportement, sincèrement, là, c'est quelque chose.
Wow. T'sais, au secondaire, on dirait que je comprends un peu plus parce qu'on dirait qu'à dos, tu testes, t'es nonchalant. On dirait que ça vient avec. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est plus logique. Au primaire, on dirait que j'ai vraiment de la misère à comprendre comment les enfants peuvent être aussi déroutés.
Ouais. Mais en même temps, je veux juste être sûre qu'on fait bien la différence entre quelque chose, là, t'sais, entre deux affaires. Le prof, l'éducatrice en garderie, qui, à un moment donné, manque de patience, est généralement patient, bienveillant, agréable et soutenant pour les enfants, puis qu'à un moment donné, il se fait envoyer promener, puis il manque de patience, puis qu'il lève le ton, c'est une chose. Ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la game. Puis les enfants, à un moment donné, c'est peut-être correct qu'ils comprennent que ben, la patience d'un adulte a un bout. Surtout au secondaire. Puis l'autre prof éducateur qui, au quotidien, dénigre les enfants et leur gueule dessus. Puis bon, il y a cette dame-là, là, mais dans la dernière année, il y a eu d'autres situations. Ça, pour moi, c'est autre chose. C'est pas la même affaire. Puis le comportement, l'augmentation des problèmes de comportement des enfants ne vient pas, absolument pas, ni expliquer, ni justifier les personnes qui sont pas à bonne place et qui se servent des enfants comme punching bag. Pour répondre à ta question, où est-ce qu'on l'a échappé, je pense que ça dépasse de loin le cadre des enfants. Il s'agit qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Moi, il ne se passe pas une semaine sans que je me fasse insulter, là. Tu sais, je veux dire, les incivilités, là...
C'est partout,
là. Tu sais, va magasiner, va à l'épicerie, puis tu vas voir régulièrement des gens qui pognent le panier de quelqu'un puis le tassent brusquement. On sent une espèce d'impatience, d'agressivité un peu partout. Les gens se permettent, se gardent beaucoup moins de gêne qu'avant. Pour les enfants, est-ce qu'on l'a échappé? Je pense que les parents sont mêlés. Je pense que les parents, présentement, j'observe, puis chez beaucoup de parents, une bien trop grande tolérance des parents à des manques de respect des enfants. Je parle beaucoup dans les dernières années de suradaptation parentale. Comme si les parents confondaient avoir une discipline, par exemple, positive et bienveillante avec laisser passer n'importe quoi, puis ne surtout pas faire vivre de frustration aux enfants.
C'est quoi les punitions aujourd'hui qui sont recommandées? C'est une drôle de question,
mais non.
Parce que moi, je veux dire, j'allais dans ma chambre, j'allais dans le coin, je m'assisais dans les escaliers. Il y avait des conséquences à mes actes. Là,
moi, je retire le cellulaire. Je leur fais patienter dans leur chambre une fois de temps en temps. Histoires de mettre mettre mon gars dans le coin. J'avais essayé ça, puis quand la mère de mes enfants m'avait pogné, elle m'avait dit non, plus jamais.
Moi, mais non.
Je dis dans le coin, mais c'est de s'asseoir à quelque part puis de réfléchir. Ouais, non, que moi, c'était sur le divan ou c'était juste de ne pas avoir de distraction, puis pense à ce que
tu
as dit.
Parce que, tu sais, il n'y a pas de mode d'emploi là, quand tu deviens parent, puis moi, mais tu sais, j'étais comme été pitché là-dedans. Là. Tu sais, j'avais pas personne qui était autour de moi en disant, regarde, voici le genre de sanction que tu peux donner à ton enfant.
Tu reproduis aussi celle que tu as vécue, mine de rien. Là.
Fait que moi, mon premier réflexe, quand mon gars de 3 ans, mettons, il tapait sur son bébé frère, ben je disais, tu vas t'asseoir devant le mur, tu vas regarder le mur pendant jusqu'à temps que papa te dise que c'est correct, mais t'arrêtes de frapper sur ton frère. Puis quand la mère des enfants a vu ça, elle n'était pas comme d'accord.
Elle n'était pas comme, ils ont créé des discussions.
Et je suis plutôt d'accord avec elle.
Ça a l'air qu'on fait ça à deux. Là. Ben, ouais. Moi, ça m'a pris 25 secondes. Elle, ça a pris 8-9 mois. Mais oui, c'est ça.
Mais en fait, c'est parce que ça a été largement démontré que ce type de punition-là, c'est totalement inefficace. Okay. Là, les enfants, ils ne réfléchissent pas assis dans un coin. Là, maintenant, c'est ça. À partir du moment où on a enlevé les punitions, c'est que pour beaucoup, on a aussi enlevé les conséquences. Et là, je ne suis pas d'accord.
C'est quoi une conséquence? C'est peut-être pas le bon mot. C'est quoi une conséquence?
Ben, une conséquence, c'est quand je te demande de venir manger, tu es sur ta tablette, puis tu m'envoies promener, ben, ta tablette, tu vas la perdre pendant 24 heures. Exact.
Mais ça, c'est quand les enfants sont plus conscients. Mais moi, mettons, je pense, puis tu sais, j'ai pas encore d'enfant, le fait que mais pour avoir été remplaçante en garderie, je me souviens que je me sentais des fois impuissante quand les enfants ont comme 3-4 ans.
Oui.
Tu sais, qu'ils sont pas assez ils ont pas la tablette dans les mains, là. Tu sais, pas encore, là. Fait que, on dirait que c'est ça, tu fais quoi?
Ben, on essaye autant que possible. On essaye autant que possible que ce soit des conséquences logiques. Fait que, tu sais, tu utilises mal un jeu, ben, on range le jeu. T'es désagréable pendant l'activité, ben t'es sorti de l'activité, puis tu vas aller jouer, tu vas être installé tout seul à une table, puis tu vas dessiner un jeu, tu vas dessiner ou tu vas faire un jeu individuel pendant que le reste du groupe peut continuer. T'es désagréable, tu tapes, tu pousses, tu frappes, tu mords, ben oui, ça se peut qu'on te mette à l'écart. Généralement, dans les garderies, on leur propose d'avoir une espèce de petit coin doux où on demande à l'enfant de se retirer, puis des fois, l'éducatrice, il faut qu'elle se retire avec parce que l'enfant, il ne va pas rester là. Puis, ben, il y a des choses avec lesquelles il peut s'occuper. Puis, ce qu'on essaie d'entraîner avec lui, c'est quand tu es envahi par les émotions, éloigne-toi donc, puis va-t'en dans un coin, puis fais quelque chose qui t'aide à te calmer.
Mais si ces comportements négatifs-là, comment tu finis par les régler? Tu sais, ton enfant tape ou il mord?
Ben, généralement.
Tu le mords pour lui montrer que ça fait mal?
Non!
Je
serais
pas de bonne mère.
Non! Ben, généralement, on va mettre un stop ferme. En grandissant aussi, on va essayer de comprendre, d'exemple, à quoi ça y sert de mordre. Est-ce qu'il mord quand il va avoir le jouet des autres? Bien, s'il mord pour avoir le jouet des autres, on va y enseigner des techniques pour demander le jouet, puis on va l'entraîner à être capable de patienter, puis comprendre que, bien, tu sais, si l'ami ne veut pas te le donner, le jouet, bien, trouve-toi d'autres choses. Fait qu'on va essayer d'entraîner les comportements adaptés plutôt que le mauvais comportement. Il faut prendre le temps de prendre du recul puis se demander, mais à quoi ça y sert? Est-ce que l'enfant pousse les autres parce que des fois, il se sent comme envahi dans sa bulle? Bien, OK, comment est-ce que je peux lui donner des outils pour qu'il sache comment préserver sa bulle puis dire aux amis, tasse-toi plutôt que de le pousser? Est-ce que j'ai un enfant qui vit quelque chose de difficile chez lui? Puis, ben quand il arrive à la garderie, il donne des claques sur la tête des autres amis parce que ça lui permet de se défouler. ben lui, peut-être qu'il va avoir besoin de soutien pour l'aider à vivre, à traverser les émotions qu'il n'arrive pas à exprimer. Est-ce que c'est de la recherche d'attention? Mon premier livre, Parents gros bon sens, c'était ça. C'était vraiment quelles sont les raisons qui motivent les comportements indésirables des enfants, puis comment est-ce que je m'ajuste? Donc, si c'est de la recherche d'attention, je vais enseigner à l'enfant à trouver des façons adaptées d'aller chercher mon attention ou l'attention des copains. Fait que là, tu sais, les enfants sont tout petits, fait que tu sais, il faut beaucoup les accompagner, puis beaucoup entraîner les bons comportements, puis avoir en tête que, bien, sont en évolution. Ceci dit, ce que je constate, puis là, ça répond un peu à ta question, où est-ce qu'on l'a échappé, c'est que parfois, les parents confondent comprendre et tolérer. Il y a quelques années, l'ado de mon ex, on était avec des amis, l'ado de mon ex me parle un peu tout croche. Il a attrapé l'adolescence, puis il me parle un peu tout croche. Fait que j'interviens, j'y lance un regard on va changer de ton, mon loup. Puis il ne se replace pas. Fait que je vais le voir, puis on va jaser en individuel, toi puis moi. Puis je dis, écoute, ou tu changes d'attitude, mon homme, ou bien on part. Et là, je reviens et ma chum de me dire, ouais, on a une fille, tu le sais, là, t'es coach familial, là, tu le sais, c'est normal à l'adolescence. Oui, tout à fait, je suis pas fâchée non plus. Je sais que c'est normal qu'à l'adolescence.
Mais j'ai droit au respect.
Ben oui, mais je vais pas te tolérer.
Non, tu mets ta ligne.
Ben c'est ça, mais tu sais,
elle est là, la ligne.
Est-ce que c'est normal que ton gars oublie de te dire merci à rendu à 11 ans? Tout à fait. Ce qui serait pas normal, c'est que tu n'interviennes pas.
Exact.
Tu sais, je veux dire, c'est... Puis là, ben toi, tu fais la bonne job. Tu fais « Hey, oh, petit brin! » Hello!
Puis on a de l'air tannant, mais on revient souvent avec ça, constamment.
Exact.
Puis on espère que nos enfants puissent faire ça avec leurs enfants aussi lorsqu'ils en auront, tu sais.
Exact.
Parce que les incivilités, il n'y a rien de pire que ça pour envenimer les choses à mes yeux, à moi. Tu parlais d'attention tantôt, SOS Nancy. Les enfants sont-ils capables de faire la différence entre avoir de l'attention positive et négative?
N'importe quel enfant préfère l'attention positive à la négative. C'est mon principe des chipmoles. Allez voir sur YouTube, j'ai une capsule vidéo qui s'appelle « Le principe des chipmoles ». Moi, je compare l'attention à des chips. T'sais, les enfants aiment bien mieux les chips croustillantes que les chipmoles, on s'entend là-dessus. Mais si on le choix entre des chipmoles ou pas de chips pantoute, ils vont prendre les chipmoles. Ben si on choisit de l'attention positive ou pas d'attention du tout, ben ils vont prendre de l'attention négative. Et à un moment donné, ben tu sais, si un enfant mange beaucoup de chips molles, très peu de chips croustillantes, ça se pourrait qu'il développe un intérêt pour les chips molles et qu'il se dise, ben je préfère ça. L'enfant qui a beaucoup, beaucoup d'attention négative et très peu d'attention positive, ben à un moment donné, il risque de chercher davantage l'attention négative que la positive.
Parce qu'en bout de ligne, c'est de l'attention pareil.
De l'attention, c'est de l'attention. Puis ben, si c'est plus facile d'avoir l'attention négative, puis s'il a l'impression que c'est ça qui mérite lui dans la vie, ben à un moment donné, ben il en voudra même plus d'attention positive, puis il va juste chercher l'attention négative. C'est ce que je vois chez mes jeunes qui ont des troubles d'opposition. Tu sais, ça, c'est ma spécialité, les troubles d'opposition, moi, dans la vie. Fait que...
Quand tu parles des jeunes, là, quand tu me regardes de même, si tu parles des jeunes jeunes, tu ne me parles pas des jeunes en quarantaine.
Non, non, pas
des troubles d'opposition. Non,
quoique!
Okay. Quoique, ça fait un bout qu'on travaille ensemble.
mais des troubles d'opposition, tu sais, en pourcentage, là, c'est quoi un enfant qui a un trouble d'opposition, là, un trouble d'opposition diagnostiqué? Ça peut ressembler à quoi? Parce qu'à mes yeux, à moi, tous les enfants ont des troubles d'opposition.
Non, tous les enfants font de l'opposition qui cause du trouble aux adultes de temps en temps. C'est pas pareil.
Ouais.
Un enfant qui a un trouble de l'opposition avec provocation, c'est un enfant qui... ça demande un diagnostic de professionnel et tout ça. Mais généralement, ça va être des enfants qui vont... Tu sais, je parle pas des crises de Bacon de 2 ans, 3 ans, là, mais des gens qui sont rendus à 7, 8, 9, 10 ans et qui font des crises violentes où ils agressent les adultes, ils agressent la fratrie, font des trous dans les murs, se sauvent de l'école. C'est des enfants qui, généralement, toutes les consignes, même les consignes les plus banales, ils vont argumenter, refuser de le faire. Tu sais, toutes les parents qui ont des enfants avec des troubles d'opposition, là, disent, ben, tu sais, mettons, je veux que mon jeune aille prendre sa douche, là. Ben, c'est sûr qu'il va falloir que je m'ostine avec pendant 20 minutes. Et à tous les soirs, il faut qu'il prenne sa douche. Mais à tous les soirs, il faut que je m'ostine avec pendant 20 minutes. Et ça se peut qu'il rentre dans la douche et qu'il parte l'eau. Et que, en sortant, je me rende compte qu'il s'est pas lavé.
Il est bien sec.
Tu sais. Fait que c'est...
Hey, je peux pas avoir des enfants.
sont pour pas vrai? Tout de je... ah, écoute, ce serait 1 à 3 % des enfants qui développent un trouble de l'opposition. Puis là, ben, il peut y avoir plusieurs raisons derrière. Là, ça peut être un enfant qui... beaucoup d'enfants avec des troubles de l'opposition ont un autre diagnostic, une comorbidité qu'on appelle. Donc, un TDAH sévère, TSA, trouble du spectre autistique, syndrome Gilles de la Tourette, trouble d'attachement.
Ça peut-tu venir juste du parent aussi? T'sais, un parent ostineux va faire un enfant ostineux, genre?
Ben c'est sûr que les chats, ça fait pas des chiens.
Parce que je nous regarde en maison, on est mal partis, là. On part avec une prise.
C'est sûr que, tu sais, je veux dire, deux personnes qui ont de la graine de tête de mule, ça fait rarement des enfants dociles. Tu sais, ça peut arriver, là, que ça soit ça une génération, mais... mais effectivement, là, il est comme tout le temps... Mais ça fera pas un enfant qui a un trouble d'opposition. Un trouble d'opposition, c'est vraiment beaucoup plus intense que l'enfant qui est ostineux ou l'enfant qui contourne les règles de temps en temps, qui a des petites cornes intermittentes. Là, eux, ils ont des cornes à temps plein. Fait que c'est toutes les règles. Ouais. Souvent, les enfants avec des troubles d'opposition refusent les compliments, sabotent tous les bons moments aussi.
Ils sabotent intentionnellement les bons moments.
Ils s'en rendent pas compte. C'est inconscient. Mais tu sais, admettons, là, on va voir un jeune avec un trouble d'opposition, on y met en place un espèce de système de motivation. Puis là, ben, au bout de tant d'étoiles, il y a une activité récompense. Ben, on peut être sûr que la journée de l'activité récompense, il va être l'enfer. Ou bien, des fois, là, il va vivre l'activité récompense, puis dans le milieu de l'activité récompense, il va péter une coche, il va être ben tannant, ou juste après. Fait que les bons moments, c'est ça. Tu sais, des jeunes souvent qui... On dirait que...
J'imagine que tu peux être accompagné comme parent quand ça arrive. Ça
ben, c'est ma job.
Ben,
job
c'est ma job de soi, Nancy.
C'est ma job. Ben, c'est la spécialité chez nous. Ben oui, c'est ça. Tu sais, puis nous autres, là, présentement, il est trop tard, là, mais on a un programme, nous autres, de 16 semaines, là, tu sais, ultra intensif avec des parents qui vivent ça au quotidien. Puis les témoignages que les gens nous amènent, c'est vraiment capoté. Là, souvent, où la moindre petite frustration de la part de l'enfant amène énormément de grosses crises. Fait que là, les parents se mettent à marcher sur des œufs, n'osent plus frustrer les enfants parce que ça va encore générer une crise de plus. Il y avait un papa qui me racontait cette semaine que sa fille s'était faite un chum. Puis là, ben, un soir, il n'a pas voulu que le chum vienne à la maison parce que la petite avait manqué l'école parce qu'elle était malade. Puis écoute, elle a pété une coche, elle a brisé une porte. Ça a été la fin du monde, là, tu sais. Fait que le papa fait « OK, ben demain, ton chum, il viendra pas non plus. Ouais. » Hey boy, moi, je l'aurais pas vu pendant un bout, là. Mais il ose pas faire ça, il peut pas faire ça, parce que, tu sais, ça va être l'enfer.
Ah, puis c'est cruel, parce que là, tu sais, il faut que tu sois égal avec tous les enfants qui sont à la maison. Il y en a qui sont plus vieux, il y en a qui sont plus jeunes, fait qu'ils veulent tous comme leurs amis. Mais à un moment donné, ça devient un zoo à la maison, là, je veux dire. Nous autres, on est déjà 6. Fait qu'imagine-toi, si tout le monde amène ses amis, c'est l'enfer.
C'est
ça
le party,
se transforme en hôtel, là, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, on est obligé de dire non. Puis souvent, c'est moi qui est obligé de dire non. Puis c'est cruel d'avoir ce rôle-là. Parce que tu te dis, tu sais, ils devraient avoir tout le temps leurs amis avec eux. Mais la réalité, c'est pas ça, là. La vraie vie, c'est que tes amis sont pas tout le temps là. Mais une fois de temps en temps, on plie, puis on dit, ben regarde, là, c'est une fin de semaine où tout le monde peut venir dormir à la maison. Fait que ils s'installent tout en bas. Puis le lendemain, on arrive avec les bâtons, on voit s'ils sont encore vivants. On les touche un peu. Puis là, ils bougent, ils grognent. Ah, ils sont encore vivants. Mais ils se couchent à 2-3 heures du matin. Mais il faut dire non.
Mais
c'est cruel de dire non à tes
c'est
enfants.
C'est dur de dire non à ses enfants. Puis de dire non à un enfant qu'on sait que quand on lui dit non, ça va être l'apocalypse. Ah. Ben, à un moment donné, c'est tentant pour les parents de ne plus oser
d'acheter
dire
la
non.
Paix,
ben,
d'acheter
oui,
la paix.
Ben oui, achète la paix, tu sais. Puis là, nous autres, avec le programme, on les pousse à ne plus acheter la paix, là. Mais là, nous autres, on est rendu exemple à la semaine 4, là. Là, les parents commencent à trouver ça rough parce qu'on les invite à ne plus être dans la suradaptation, là. Mais c'est comme les crises augmentent en intensité et en fréquence. Fait comme... Une dame nous disait la semaine dernière qu'elle avait géré 7 crises dans la même journée.
Ah, oh, mon
fait
Dieu,
que,
il y a des gens qui nous écrivent par texto SOS Nancy au 88-971-1021. « Salut mon gars, et TDAH, avec opposition, provocation, impulsivité et agressivité. Et les deux psys qui l'ont suivi m'ont diagnostiqué aussi à l'âge de 41 ans. Et depuis, je suis médicamenté et j'ai 49 ans. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. »
Ouais. Ouais, oui.
Ben, c'est vrai que ça peut t'amener à te regarder dans le miroir, par exemple.
Ben, tu sais, le TDAH, on sait que c'est quelque chose qui est héréditaire. Souvent, l'anxiété aussi peut avoir des enjeux héréditaires.
Les Asperger? Souvent, là, tu trouves que ton enfant est un peu différent, des réactions bizarroïdes. Il est concentré sur des affaires, puis tu te dis, mais comment ça, il est tout le temps concentré là-dessus? Ben souvent, il y a des parents qui vont avec les enfants voir le médecin pour avoir un diagnostic. Le médecin sort vite, puis vous allez passer le test, vous aussi.
Oui.
Puis ils se découvrent par la suite qu'eux aussi sont Asperger. Fait que c'est, quand tu as ce diagnostic-là, bon, ça explique pas tout, mais ça doit te faire du bien. Tu dis, enfin, je comprends ce que j'ai, moi aussi.
Oui, c'est ça. Je me suis toujours senti un extraterrestre et finalement, j'en suis un pour vrai.
Tu comprends mieux ton enfant.
Ben oui,
mais tu comprends mieux toi aussi. Souvent, quand tu as un diagnostic et tu mets des mots sur ce que tu vis, c'est soulageant, Titi.
C'est ça. Puis, tu sais, c'est un couteau à double tranchant, les diagnostics, parce que des fois, après ça, tu portes une étiquette puis on ne veut pas que ça devienne une excuse pour autre chose. Mais la plupart du temps, d'apprendre à. Tu sais, quand le diagnostic est bien fait, ça permet d'apprendre à se connaître. Mais tu sais, je veux revenir à ta question, Yannick, tu disais, ben tu sais, où est-ce qu'on l'a échappé? Je reviens à mon point de suradaptation. Je constate une très grande tolérance de beaucoup de parents par rapport au manque de respect de leur enfant où ils confondent comprendre et tolérer. Fait que là, tu sais, les tout-petits, on le dit depuis plusieurs années, leur cerveau est en construction, donc ils n'ont pas le même autocontrôle que nous, ils n'ont pas le même langage pour exprimer leurs émotions, donc c'est normal qu'un petit de 2 ans, quand tu lui dis non pour quelque chose, qu'il ait envie de venir te donner une tape. Le problème, c'est que je vois des parents se laisser taper par leurs enfants sans intervenir parce qu'ils pensent que c'est normal. Alors, l'enfant ne prend l'habitude de, tu sais, sa programmation neurologique, là, il prend l'habitude de quand je suis frustré, je tape.
Je tape.
Quand je suis frustré, je tape. Quand je suis... Et à un moment donné, ben, il grandit. Puis là, même si son cerveau mûrit, ben, lui, il est habitué que quand il est frustré, il tape. Puis chez lui, c'est toléré.
Je veux pas comparer les chiens et les enfants, là, loin de là mon intention, mais j'ai un golden à la maison. Puis une des premières choses qu'on m'a dit quand il était bébé, quand il avait 2 mois, c'est « laisse-le pas te sauter ses genoux, même si c'est cute là, mais qu'il pèse 100 livres, tu vas trouver ça moins drôle, mais qu'il te saute dessus parce qu'il va être la même grandeur que toi, tu sais. »
Ben, mais
à mon sens, c'est le même principe.
Oui, c'est le même principe. Fait que tu sais, moi, si quand mon petit de 2 ans vient me taper, je vais pas être fâchée, puis je vais pas avoir l'impression qu'il est violent ou qu'il est en train de devenir, il va devenir un tueur en série, là.
Est-ce que tu peux demander? Est-ce que tu aimerais ça que genre que je
te fasse? Absolument pas. À 2 ans,
non, j'ai tellement entendu ça souvent. T'aimerais-tu ça que maman fasse la même chose?
Ouais, mais il sera pas capable de comprendre. Son cerveau, il a pas ce qu'il faut pour se mettre à la place. Mais tu sais, je vais retenir son geste, puis je vais lui dire un gros « Hey, non, on tape pas. Fais doux à maman. » Mais moi, j'ai vu, écoute...
Là, c'est pour son golden, c'est pour nos enfants, là.
On est revenu aux enfants, là.
quand j'ai un enfant, comment je vois ça souvent, tu sais, l'enfant a 3 ans, 4 ans, le parent est en train de parler avec quelqu'un, l'enfant, il tire un peu la manche, puis là, le parent ne répond pas tout de suite, puis l'enfant fait « Maman, il dit! » Puis là, le parent, « Oui, qu'est-ce qu'il y a? Hé, attends un peu, là. Ton loulou, il te gueule dessus. » Alors, tu peux pas dire « Oui, mon cœur, qu'est-ce que tu veux? » Ça marche pas. Il te gueule dessus. Ça fait « Hey, non, quand tu me parles comme ça, moi, si quand tu cries sur moi, je t'entends pas. Parle-moi doucement. » Tu n'as pas besoin de le punir. Mm. Mais donne-y pas ce qu'il veut quand il te crie dessus. Mm. Après ça, ben, je vois... mettons, l'année dernière, là, je voyais une maman qui se prenait avec son ado d'à peu près 12 ans. Puis là, l'ado était avec une amie. Puis là, tu voyais que la mère, elle voulait acheter une veste à sa fille. Puis là, il montrait des vestes. Puis la fille, était « Franchement, maman, t'as pas de goût. Arc! Me rapport que je vais porter ça. » Et là, j'ai la maman qui reste de bonne humeur qui fait « Ah, oh, Juliette, là, franchement, là. Hé, hey, oh! Retourne à la maison, choupinette. Elle portera son manteau avec les manches trop courtes pendant
c'est
encore un mois. »
C'est de la merde, là. C'est ça, on va retourner chez nous.
Ne tolère pas cette attitude-là. Parce que quand le parent la tolère, bien, la jeune, elle a transféré ça à l'école. C'est normal que je parle de même à ma mère. C'est normal que je parle de même à mon prof. Fait que, tu sais, quand on revient aux fameuses incivilités qu'on voit dans les écoles, bien, le jeune fait juste... Il reproduit ce qui est normalisé chez eux. Quand chez lui, il peut dire à sa mère « Maman, viens! » Et que maman débarque en disant « Oui, mon cœur, qu'est-ce que tu veux? » Bien, c'est sûr que dans la classe, il prendra pas le temps de lever sa main puis attendre que le professeur soit disponible.
Puis les jeunes sont tellement intelligents. Tu sais, moi, quand ce que je remarquais beaucoup là, quand ma mère avait une garderie, là, c'est qu'il y a des parents qui disaient à ma mère, « Comment t'es capable de faire sa sieste ou commencer à manger son assiette au complet? Chez nous, il veut rien savoir, c'est le bordel. » Puis tu réalisais que c'est ça, les parents étaient un peu dépourvus parce qu'à la garderie, ça se passait toujours. Et one, c'était bien encadré, c'était fait de la bonne manière, puis à la maison, ça devenait le bordel.
Alors, remarque que... Il y a une partie qui est normale. L'effet d'entraînement de groupe où, ben tu sais, tout le monde est assis en même temps, puis tout ça, ça aide.
Okay.
Puis, ben tu sais, les règles de la garderie, c'est à l'extérieur de la maison. L'éducatrice a moins de liens d'attachement. Tu sais, fait que l'enfant va moins jouer à essayer de contourner les règles de l'éducatrice. Mm. C'est assez commun que les enfants se conduisent mieux à l'extérieur de la maison qu'à la maison.
C'est rassurant, au moins.
Oui, il y a quelqu'un qui est dans la salle qui a une question. Oui, je vais prendre votre question. qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui ne veulent rien manger? Puis, c'est pas nécessairement parce que mon ami dans la salle, c'est un mauvais cuisinier. Là. Il essaie de faire de la bouffe pour ses enfants. Puis même des fois pour les lunchs, c'est le lundi que ça arrive, je sais pas pourquoi, mais on me dit que les enfants reviennent à la maison avec le plat de plastique encore plein de spaghettis, exemple.
Ouais. Ben écoute, la première question à se poser, c'est pourquoi?
C'est parce qu'ils en ont trop.
Ben ça se peut. Tu sais, je veux dire, il faut trouver pourquoi. Puis des fois, poser la question à l'enfant, c'est pas mal la première étape.
Ah, ils sont cruels. Ils disent que je sais pas cuisiner.
ça se peut que ce soit parce qu'effectivement, l'enfant aime pas ce qu'on y présente.
Ouais.
Ça se peut que ce soit parce que, entre autres, au service de garde scolaire, ça va tellement vite que puis là, ben, tout le monde, les enfants veulent jaser avec leurs amis puis tout ça, que des fois, ils ont juste comme pas le temps.
Ouais.
Parfois, ça va être parce qu'effectivement, ils en ont trop. Ils ont pris un gros déjeuner, une grosse collation, arrivé à l'heure du midi. Ça se peut qu'ils n'aient pas tant faim. Tu as des enfants qui prennent de la médication. Bien, la médication, ça fait que sur l'heure du midi, ils n'ont pas faim. Donc, il faudrait essayer de comprendre. Si j'ai un enfant...
Parce que quand je mets de la pizza, là, et ça revient jamais, ça. Mais si je mets du spaghetti, si je mets des trucs que leur mère ne fait pas d'habitude, ils n'en mangent pas. Puis je me dis, c'est peut-être notre éducation, mais moi, là, je mangeais tout ce qu'on me donnait. Tu sais, parce qu'il n'y en avait pas tant.
Ouais.
Puis là, je me dis, c'est-tu parce qu'on leur en donne trop? Fait que les autres, ils se disent, ben, je peux me priver de ça puis je mangerai plus ce soir, tu sais.
Ouais. Puis tu sais aussi, il faut comprendre, admettons, dans ton cas, les jeunes, tes enfants doivent s'adapter à deux styles culinaires différents.
Ouais.
Fait que, tu sais, ça se peut qu'effectivement, ils trouvent ça difficile de s'adapter à ton style culinaire.
Les collations, les desserts, ça revient jamais, ça.
Non, il n'y a jamais de problème avec ça, là.
Fait que donc, tu vois que c'est pas un problème d'appétit. C'est un problème de goût, de texture, peut-être. Puis, ben tu sais, moi, après ça, si le jeune, là, il est capable de pas manger sur l'heure du midi puis qu'il mange juste plus le soir, on s'en sert.
Oui, il se laisse pas mourir, hein?
Ben non.
Non, c'est ça.
Tu sais, je veux dire, si le jeune, il y a une courbe de croissance qui va bien puis qu'il compense autrement...
C'est vrai, pareil,
hein? Hey, tu sais, je veux dire, c'est tellement souvent un faux débat. Puis tu sais, quand les enfants sont jeunes, je me souviendrai tout le temps, je suis plus jeune de mon ex. Écoute, on s'est tellement battu avec pour qu'il mange quand il avait 7, 8, 9, 10 ans. Hey, là, elle m'a dit qu'à 18, là, attache ta tuque quand il vient à maison, là,
je dire, ça mange solide.
Hey boy! Fait que,
avec la négation, j'ai réussi à faire un bout. Là, mange surtout pas le brocoli. Papa va être fâché. Puis là, il mangeait le brocoli. Puis là, il me regardait.
Mais là, c'est ça, tu sais quoi avec le fâché. J'aime pas ça? Parce que souvent, c'est du jour au lendemain. Là, il aime ta sauce à spag. Puis du jour au lendemain, tout d'un coup, ça fait plus.
Oui, puis je pense que c'est le neveu à Pascal CV. Là, il a toujours mangé, une pomme. Il a toujours aimé les pommes. Il veut des pommes tout le temps. Puis à un moment donné, il a dit à Pascal, je veux apprendre à ne pas aimer les pommes. Ah! Fait qu'il voulait plus manger de pommes.
Ça, tu vois,
c'est intelligent, par exemple.
Mais, premièrement, tu sais, ton espèce de négation, ça marche quand ils sont petits. Maintenant, ça marche plus parce qu'ils catchent bien, tu sais, qu'on
les niaise. Même avec ma blonde, ça marche pas, là.
Ben non, ça marche pas. Mais j'ai essayé aussi
Je veux surtout pas de couchi-couchi ce soir. Puis là, Montréal, ça y fait rien.
Parfait, moi non plus.
On en reparlera demain.
Ouais. Hey, SOS Nancy, le temps nous manque. Il va falloir que tu reviennes à un moment donné.
Ah non.
C'est tout le temps achalandé, ton horaire, mais c'est pas grave. On va essayer de se trouver un trou à un moment donné. Mais pour les familles qui t'ont entendu, qui ont de la difficulté parfois avec leur bambin, pour leur plus vieux aussi. On peut communiquer avec toi chez sosnancy.com.
sosnancy.com, ma page Facebook aussi, SOS Nancy Coaching Familial. Allez voir ma chaîne YouTube. J'ai une centaine de vidéos gratuites, ça va à peine.
Ouais. T'es rendu avec combien de coachs, là?
Moi, mon équipe, je l'ai gardée juste à trois.
Trois?
J'ai trois coachs, mais tu sais, je forme des coachs à chaque année. J'ai une espèce de bottin auquel les coachs peuvent adhérer, là. Mais j'aurais autour de 800 quelques coachs formés dans le monde.
Pour les gens qui nous écoutent, qui sont des autres villes, là, ils peuvent contacter SOS Nancy. Puis des fois, tu peux référer des gens, mettons, à Victoriaville.
Exact. Donc, on a un bottin. Puis sinon, tu sais, les gens peuvent googler le coaching familial puis leur secteur, juste s'assurer que les gens ont une formation solide, parce que Roger Pompiste peut se lever demain puis dire qu'il est coach familial, là. Fait que, tu sais, c'est pas réglementé.
Salut,
donc,
les enfants!
Fait que, assurez-vous que les gens ont une formation solide, puis, ben, tu sais, quand il y a le petit logo de l'école de coaching familial, Nancy Doyon, ben, c'est comme un espèce de gage de...
Roger Pompiste peut devenir coach familial.
Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Coach Internet, tu sais, je peux devenir coach de vie demain, tu comprends? Exact. Puis c'est pas si je suis formé, là.
Exact. Fait que, tu sais, c'est pour ça, c'est un... Faut faire
voir mon tuyau.
Je pense qu'il est temps qu'on s'en aille.
Nancy Doyon, coach familial, sosnancy.com sur Internet. C'est toujours un plaisir.
Fait plaisir.
11h16, on s'arrête. Marceau.